Yeah, it's only the 12th Kimsaya.
Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il a vécu, il était là.
Certains SS. Je fais une petite parenthèse. On a eu l'impression, pas qu'une impression, on a vu visiblement que vers la fin, ils avaient besoin de troupes sur les fronts. Les armées américaines étaient avancées, les Russes de l'autre côté, et les jeunes SS, les plus capables de se battre, étaient envoyés au front et ont été remplacés souvent, ça on l'a bien vu, par des hommes plus âgés, qui étaient plus en âge vraiment d'être au front, des hommes de 50 ans et autres, hein, pris dans la Volkssturm et qu'on a habillé en SS. Alors il y avait les officiers SS qui étaient des gros durs, et ça je me souviens d'un qu'on a pu arrêter. Les autres, ils avaient un profil plus bas, hein, parce que ce n'était pas... Moins vraiment le SS fanatique, comme on l'avait connu à l'arrivée du camp. Mais je me... Et à propos des armes, non seulement nos camarades du comité clandestin ont profité du bombardement, comme tu l'as dit, pour rentrer des armes depuis les usines toutes proches du camp, mais également il y avait des commandos de travail qui travaillaient dans les casernes SS, que vous voyez là-haut, hein, où on était ce matin. Et ils travaillaient à l'entretien, les travaux domestiques, jardinage, nettoyage, etc. Et dans ces casernes, il y avait beaucoup de fusils de toutes les armées d'Europe. Pour que les SS, les jeunes SS, il y avait les tout jeunes de l'SS, hein, apprennent à reconnaître et à manier des fusils tchèques, des fusils français, des fusils russes, etc. Il y avait donc des collections d'armes. Et grâce au capot, au chef de travail allemand, prisonnier comme nous, et qui commandait ces groupes, ils ont pu voler certaines de ces armes et petit à petit les introduire dans le camp. Et le capot SS qui menait dans le camp un groupe de déportés qui avait fait le ménage là-bas, il présentait le rapport au SS de garde à la porte et il disait « Rien à signaler, tu vas bien, 12 hommes, etc. » Sous sa responsabilité, il disait ça, si les autres avaient soulevé la bâche, ils auraient trouvé les armes. Et ça, il faut reconnaître le courage qu'ils ont eu. Hein. Quant à mon expérience immédiate personnelle, j'étais ici, on avait quelques prisonniers SS là, dont un officier très arrogant, je me souviens, et le premier char américain était là, à peu près où il y a cette voiture. On s'est approché, je ne sais pas si c'était le chef de char ou le conducteur, il a ouvert la tourelle, il a sorti sa tête, c'était un Chinois. Un Chinois américain, vous savez, il y a des Américains qui ont émigré en Chine et ensuite sont devenus Américains. Bon, c'était un Américain-Chinois ou un Chinois-Américain, comme vous voulez.
En attendant,
ça m'a laissé un très bon souvenir.
Très étonnant.
De voir ce côté un peu international de cette armée de libération.
Il faisait une journée splendide.
Il faisait un temps à peu près comme celui-ci.
Comme celui-là.
Voilà. D'autres questions?
J'étais, comment dirais-je, contacté par l'organisation clandestine, mais à un niveau très bas. Hein. Bon, j'avais 21 ans. Je n'avais pas de responsabilité vraiment, ni rien. J'avais simplement... Je savais qu'il y avait quelque chose qui existait. Je transmettais, mon rôle était, disons, surtout, de transmettre à d'autres des nouvelles du front. Parce que un élément très important pour le moral des prisonniers, c'était d'avoir des nouvelles précises, réelles, véridiques, sur l'avancée des fronts, hein, l'état de la guerre. Et dans le camp, les bruits les plus fantaisistes couraient. Ou des gens complètement défaitistes, ou des gens au contraire qui exagéraient, qui disaient, ça y est, Hitler s'est suicidé, il n'y a plus rien. Bon, alors, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait une radio clandestine dans le camp. J'ignorais l'existence de la radio, ni qu'est-ce qu'il écoutait. Hein. Mais dans le camp, il y avait des spécialistes très forts, mécaniciens, électriciens, tout ce qu'on veut, de tous les pays d'Europe. Ils avaient monté de bons appareils de radio. Hein. hein, il prenait la BBC et tout ça, je suis après. Et j'avais un camarade qui me donnait les nouvelles, à charge pour moi de le transmettre à 5 ou 6 autres dans le bloc ou ailleurs. Hein. Voilà, quel était mon rôle essentiel, participer un peu au mouvement de solidarité, c'est-à-dire partager un peu, donner une petite lichée de pain, mais si on avait 20 qui donnaient un petit bout de pain comme ça, ça faisait une double ration pour un jeune ou quelque chose comme ça. Voilà le genre de choses. Et puis, à la fin, j'étais avec d'autres chargés d'encadrer, si jamais le bloc où on se trouvait à ce moment-là, dans le petit camp, partait vers, dans la marche de la mort, là, hein, pour évacuer le camp, on devait partir avec eux et essayer de désarmer les SS en cours de route. Alors, on était plusieurs désignés pour ça. Moi, je devais me jeter dans les pieds du SS pendant que deux autres le désarmaient. Voilà.
Ouais,
heureusement, on n'a pas eu, on n'a pas dû essayer.
Il faut dire également, on a un camarade qui travaillait au labo photo, qui a pris pas mal de photos clandestines.
Ouais, qui s'appelle Georges Angély, voilà. Et qui est encore en vie aujourd'hui.
Oui, il habite à Châtellerault.
Et vous verrez d'ailleurs au musée un certain nombre de ses photos.
Il avait enterré les pellicules et les a déterrés à la Libération. Et pendant un certain laps de temps, il faisait des albums qui on donnait ce qu'on voulait pour qu'il envoie des jeunes, comme il y a des jeunes parmi nous ici, pour qu'ils puissent visiter Buchenwald.
Le premier signe que j'ai eu de l'insurrection, vraiment, je savais qu'on avait une organisation de résistance, etc. Mais le premier signe de l'insurrection, j'ai vu un camarade allemand que je connaissais d'un autre bloc qui courait entre deux baraques avec un pistolet à la main. Alors là, j'ai compris. Ouais.
Donc d'autres
qui sont amers pour avoir fait la marche de la mort de Buchenwald jusqu'à Dachau. Mais il faut dire, la résistance intérieure du camp ne pouvait pas tout faire du tout, et la résistance n'était pas responsable.
Ils ont traîné au maximum.
Bon, j'ai par exemple un camarade qui était dans le petit camp, et il comprenait l'allemand, il avait entendu parler de l'exode, et avec deux autres camarades, c'est Charles Palan, il est passé dans le grand camp.
Oui, le camp sévissait d'évacuation, donc on commençait les opérations d'évacuation sur d'autres camps. Alors ces évacuations se sont faites de différentes façons, où il s'agissait d'évacuations faites à pied, par voie ferroviaire, en camion, ou quelquefois c'était mixté, je veux dire, compte tenu des circonstances. Et souvent, à partir du mois d'avril, enfin à partir de fin avril, souvent, ces évacuations ont connu des itinéraires complètement, ébouriffants, quoi. Tout simplement parce que l'avancée des troupes alliées, à l'est comme à l'ouest, faisait que les Allemands ne savaient plus où aller. Les nazis ne savaient plus du tout où aller. Ils allaient dans une direction et tout à coup, on leur signalait que les troupes soviétiques étaient qu'à quelques kilomètres, ou tout simplement, ils entendaient le bruit des canonnades, donc, et ils revenaient sur l'ouest, et c'était la même chose cette fois avec les troupes américaines. Donc, bon, certains sont montés d'ailleurs au nord. Hein. Vous savez quand même que Berlin a résisté jusqu'à quasiment au 8 mai 1945.